ensuite démarrer. Voilà. Alors donc bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on accueille Eva Gare pour un webinaire sur l'installation en élevage bovin dans le cadre de la série Les voies du terrain proposée par Fermenvie. Je vais démarrer ce webinaire par présenter rapidement notre structure FEV, et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet en présentant Eva, son travail, et puis on discutera d'installation en élevage bovin. Donc moi je m'appelle Juliette. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà échangé avec moi dans le cadre de leur installation, puisque je suis chargée des relations avec les porteurs de projets, notamment chez FEV. Donc c'est-à-dire que si vous nous contactez pour une des fermes que nous proposons, il est probable que l'on échange ensemble. Je vais vous présenter rapidement ce qu'on fait chez FEV. Donc nous, notre mission, c'est de faciliter l'installation de la nouvelle génération de l'agriculture française sur des fermes agroécologiques et diversifiées. Et pour faire ça, on utilise deux leviers principaux. Le premier, c'est une plateforme qui s'appelle Lagrange et qui met à disposition des porteurs de projets des outils pour leur permettre de concrétiser leur parcours d'installation, leur projet d'installation. Donc, vous avez des outils d'auto-formation, des outils d'estimation de ferme, de recherche de ferme, et ça vous permet, en tant que futur agriculteur ou agricultrice, de structurer votre projet pour ensuite pour permettre de concrétiser votre installation. Et c'est puis cette plateforme est accessible à tous et à toutes sans aucune distinction, et c'est complètement gratuit. Ça, c'est notre premier levier. Et le deuxième levier, c'est un levier plutôt axé sur le financement du foncier, puisque nous avons une foncière solidaire qui propose une solution de financement aux porteurs de projets grâce à l'épargne citoyenne. Donc, en fait, on va récolter l'argent d'épargnants citoyens dans cette foncière, et grâce à l'argent récolté, on va racheter des fermes et ensuite les louer en location avec option d'achat aux porteurs de projets. Ce qui permet voilà, de s'installer plus confortablement qu'avec directement un emprunt à la banque qui n'est pas toujours accessible pour tous les porteurs de projets. Aujourd'hui, du coup, on va parler d'installation, hein, c'est un de nos sujets principaux, et plus spécifiquement d'installation en élevage bovin. Et pour parler de ça, bah, on a fait appel justement à une experte du sujet à qui on va laisser la parole. Maintenant. Donc Eva, est-ce que tu pourrais activer ton micro et te présenter, parler de ton parcours et puis de ton métier de conseillère technique?
Oui, alors bonjour à tous. Je suis donc Eva Gare. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, en quelques mots, donc je suis bretonne, j'ai 30 ans et je suis récemment installée en tant qu'indépendante pour faire donc du conseil auprès des éleveurs, majoritairement en bovin. Je suis diplômée d'ingénieure en production animale de l'ESA d'Angers, donc l'École supérieure d'agriculture, avec une spécialité évidemment en production animale, mais aussi une spécialité plus particulière sur les zones de montagne et les zones AOP. Donc en fait, j'ai très vite intégré l'agriculture dans sa valorisation de l'herbe pour les vaches majoritairement. Je suis sur le terrain depuis maintenant 10 ans en milieu professionnel, donc j'ai fait différents métiers toujours en lien avec l'élevage, en commençant par du conseil à l'installation et des agriculteurs en difficulté dans le sud de la France. Et puis très vite, je suis remontée en Bretagne maternatale pour faire du conseil auprès des éleveurs, d'abord avec des spécialités de séchage en grange. Et puis après, de manière plus générale, voilà, de l'accompagnement global auprès des éleveurs bovins. Je travaille dans différentes structures d'organisations professionnelles agricoles. Et puis donc, j'ai quitté tout ça assez récemment pour faire le choix donc de l'indépendance.
D'accord, ok. Bah merci pour cette présentation. Et du coup, aujourd'hui, donc tu es conseillère technique indépendante, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous expliquer plus concrètement bah, quel est le rôle en fait auprès des personnes que tu conseilles et voilà, quel est ton métier exactement au quotidien?
Donc, en effet, je suis conseillère en élevage auprès des éleveurs de vaches laitières et de vaches allaitantes. La majorité de mon travail, il consiste à appuyer les agriculteurs et agricultrices dans le suivi de leur élevage dans sa globalité. Donc, en fait, je fais à la fois du soutien technique, donc sur de l'alimentation, de la reproduction. Donc, ça peut être l'élaboration d'une ration, par exemple, pour une transition à l'herbe ou un retour en bâtiment l'hiver. Ça peut être aussi du conseil qui est de l'ordre plutôt stratégique d'entreprise. Donc, par exemple, un éleveur qui va se poser la question de passer de vélage étalé pendant l'année à un vélage groupé, bah, comment est-ce qu'on organise en fait à la fois ce changement de troupeau, les stocks, etc. Et donc, en fait, l'avantage, à mes yeux en tout cas, d'être indépendante, c'est d'être un œil neuf complètement extérieur, qui est neutre de tout conseil orienté, que ce soit alors évidemment commercialement parlant, donc comme pourrait le faire par exemple un vendeur d'aliments. On peut facilement comprendre que un vendeur d'aliments va orienter une ration de manière à vendre davantage d'aliments de sa coopérative ou de sa firme privée pour gagner plus, même si ça reste toujours dans l'intérêt de l'éleveur, évidemment, hein, mais il y a un double objectif à la fois pour l'éleveur et le commercial. Donc, il y a aussi toute une volonté, voilà, d'être indépendante, d'être neutre. Et en fait, je ne fais que proposer des solutions aux agriculteurs, les accompagner, les soutenir, mais sans jamais imposer quoi que ce soit. Ça reste toujours l'éleveur et l'éleveuse qui sont décisionnaires chez eux. Si j'ai deux, trois exemples concrets récemment à vous exposer, c'est typiquement un éleveur qui s'est récemment cassé le bras en ramassant ses foins. Il a dû passer en monotraite de manière assez urgente pour des soucis de main-d'œuvre chez lui, et puis bah, évidemment lié à son accident de travail. Donc voilà, on a très urgemment fait en sorte que le troupeau puisse passer en monotraite. Donc on a géré les stocks fourragers, on a géré les rations, on a géré la salle de traire, on a géré la manière de traire. Donc, pour que ça soit réussi et que ça n'impacte pas économiquement de manière trop négative la ferme.
Ok, super. Bah, merci pour ces exemples concrets. Et du coup, dans quel contexte, enfin, comment les agriculteurs et agricultrices qui ont besoin de tes conseils peuvent te contacter? C'est eux
Alors,
qui viennent vers toi directement, c'est…
oui, c'est ça. La majorité du temps, en fait, les agriculteurs et agricultrices qui en ont le besoin, ou en tout cas se posent la question d'un accompagnement plus global et indépendant, ils me contactent directement, donc soit par mon site internet, à savoir evaenelevage.fr, soit par téléphone, par mail. Enfin, il y a mille façons de me contacter. Il y a aussi des mises en relation qui sont faites, hein, quand, par exemple, un expert comptable voit que ça fait plusieurs années qu'une ferme est potentiellement dans la difficulté de l'atteinte de ses objectifs, qu'ils soient techniques, économiques, sociaux, peu importe, hein. Il y a aussi des mises en relation qui sont faites de cette manière. Mais voilà, la majorité du temps, ça reste du bouche à oreille et des éleveurs qui contactent directement, puisque de plus en plus, en fait, veulent s'affranchir des conseils orientés, commercialement parlant, et puis aussi des contrôles laitiers dans leur globalité, qui voilà, sont pour en tout cas des agriculteurs ne s'y retrouvent plus toujours. Donc voilà, ils veulent changer parfois d'accompagnant.
D'accord, ok. Et où est-ce qu'on peut trouver des conseillers techniques indépendants comme toi si on n'est pas dans ta région? Parce que j'imagine que tu as quand même une zone géographique restreinte.
Alors, en effet, ma zone géographique, alors elle n'est pas si restreinte, mais, enfin, malheureusement pour moi, je circule beaucoup. Impact carbone pas top, c'est vrai. Grand Arc Atlantique, donc du Finistère jusque la Vendée Nord, en passant par le Maine-et-Loire. Avec un pool dans le Jura, c'est très particulier. Je passerai l'historique de ces éleveurs que j'accompagne dans le Jura. Mais pour les éleveurs qui seraient pas dans cette région ou avec qui en fait ça matcherait pas, parce que je m'entends pas non plus avec tous les éleveurs pas tous travaillent avec moi, donc on peut aussi aller voir d'autres conseillers techniques indépendants. Et donc alors aujourd'hui malheureusement il n'existe pas de catalogue en fait sur lesquels ils seraient répertoriés. Donc en fait pour les trouver il faut rechercher majoritairement en ligne. Donc le mot-clé qui marche plutôt bien c'est nutritionniste, puisqu'en fait quand on tape nutritionniste bovin sur Google on tombe assez vite sur des conseillers indépendants. qui ne font pas que de la nutrition, mais en fait, c'est un peu le terme vulgarisé qui donne accès à des conseillers indépendants. Sinon, très simplement, en fait, en contactant les conseillers indépendants, on se connaît entre nous et on sait à peu près les zones géographiques et les spécificités de chacun. J'ai parfois des éleveurs hein, qui m'appellent, qui vont être sur des très grosses productrices en ration mélangée. Bon, je sais que je suis pas la technicienne qui leur conviendra le mieux, donc je les oriente vers d'autres nutritionnistes indépendants qui sont spécialisés en ration mélangée, par exemple. Donc c'est vraiment de la recherche en ligne. Et après, faut pas hésiter à nous appeler. En fait, on vous met en relation avec le conseiller qui va bien, quoi.
Ok, super. Bon, bah de bons conseils pour les porteurs de projets qui pourraient avoir besoin et qui sont présents pendant ce webinaire. Ce que je propose, c'est qu'on passe à un sujet, enfin le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, donc l'installation en bovin, et qu'on passe un petit peu de temps là-dessus. Déjà, avant de rentrer là-dedans, moi j'ai une question pour toi. C'est parmi les gens que tu accompagnes aujourd'hui, est-ce qu'il y a un profil qui se démarque, et est-ce que bah il y a beaucoup de gens que tu accompagnes dans le contexte de l'installation, ou est-ce que c'est plutôt des personnes qui sont installées depuis un certain temps qui font appel à des conseillers techniques comme toi?
J'ai pas de profil type du tout d'éleveur ou d'éleveuse. J'ai des exploitations qui sont vraiment variées, de systèmes tout terre, de systèmes avec du maïs, de systèmes en transformation ou en circuit long de vente en laiterie, monotraite, robot. Donc en fait, il n'y a pas du tout un profil qui se dessine de manière catégorique, en tout cas parmi les éleveurs que j'accompagne. Et dans ce panel-là, c'est majoritairement des éleveurs qui sont installés en fait depuis, je dis 10 ans, mais en fait j'en sais rien. En tout cas, ils ont un petit peu d'expérience. Mais parmi eux, il y en a, je dirais à peu près 30% dans lesquels en fait il y a un jeune qui s'installe sur la ferme ou qui veut reprendre en tout cas. Après, la majorité des porteurs de projets que j'ai l'occasion de rencontrer dans mon métier, c'est plutôt lorsque je fais de la formation, puisqu'en fait j'interviens aussi en formation. Puisque je fais de la relecture en fait de business plan agricole, avant que des porteurs de projet en fait aillent présenter un prémisse de projet en banque, je fais des relectures de business plan agricole pour voilà que ce soit un truc qui soit sérieux, qu'on puisse se préparer aux questions un peu pièges du banquier ou de l'expert comptable éventuellement. Donc c'est plutôt à cette occasion-là que je rencontre les porteurs de projet. Et puis c'est une fois qu'ils sont installés qu'éventuellement parfois ils font appel à moi pour le suivi d'élevage, mais voilà, c'est plutôt comme ça que ça se dessine.
Ok, d'accord, bah super. Donc parlons d'installation en bovin, du coup, puisque c'est le sujet qui nous intéresse. Ma première question, ce sera de te demander bah, quelles sont les étapes en fait à penser pour devenir éleveur ou éleveuse bovin. Partant du, enfin, je pense que l'étape 1, c'est le choix. Est-ce que je devrais être ou pas éleveur ou éleveuse bovin? Est-ce que je devrais avoir plutôt un troupeau laitier ou un troupeau allaitant ou un mixte des deux? Est-ce qu'on peut parler peut-être de ça pour démarrer? Est-ce que je pense que c'est un métier qui correspond pas forcément à tout le monde, où il y a des contraintes et des avantages, et je trouverais ça intéressant d'avoir ton éclairage là-dessus.
En effet, je dirais qu'une des premières étapes quand on se pose la question éventuellement du métier d'éleveur, c'est de se poser vraiment sérieusement sur quels sont ses objectifs à la fois personnels, donc vraiment familiaux, de vie, etc. Ses objectifs professionnels en termes à la fois de temps de travail, de rémunération et puis de valeur. C'est très, très souvent une étape qui est négligée. Et qui malheureusement, et on le voit sur le terrain, c'est bien identifié, amène à des ruptures d'associations assez rapides. On voit beaucoup de néo-ruraux qui s'installent en société et qui, au bout de 3-4 ans, en fait, se séparent pour mésentente parce qu'en fait, la majorité du temps, les objectifs personnels, professionnels et valeurs n'ont pas du tout été mis en corrélation entre eux. Donc ça, je dirais que c'est la première étape sur laquelle il est vraiment indispensable de se poser. Même si ça paraît un peu utopique de se dire j'écris mes objectifs sur le papier, ben en fait c'est pourtant une étape clé. Et en fait, va en découler à mes yeux le choix du type d'élevage sur lequel on s'oriente. Et donc très vite, si typiquement on n'a pas envie de travailler plus de 35 heures semaine, on se doute bien qu'être éleveur en troupeau laitier, donc que ce soit en chèvre ou en bovin d'ailleurs, hein, ou même en brebis, bon bah la traite va faire en sorte que on augmente le temps de travail. Donc, est-ce que le bovin allaitant va pas pouvoir permettre, en tout cas, de réduire cette astreinte-là de traite? Ça peut être une solution, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette relation à l'animal. On n'a vraiment pas la même relation avec une vache laitière qu'avec une vache allaitante. Il n'y a pas la même force de travail qui est déployée aussi d'un point de vue physique, hein. Donc, ça peut être en tout cas, je dirais, le temps de travail et le confort de travail d'un point de vue d'astreinte qui peut permettre de choisir entre lait et viande. Après, sincèrement, quelqu'un qui se pose la question d'être éleveur, au fond, lui, il sait déjà s'il fera du lait ou de la viande. C'est pas du tout le même métier. Donc, bon, ça, ouais, pour moi, une première étape.
Ok, super. Et du coup, donc l'étape qui va suivre une fois qu'on a fait son choix, c'est potentiellement bon, soit on a déjà de l'expérience et on est issu du milieu agricole où on a déjà travaillé sur des fermes, soit il va falloir qu'on se forme à la fois au niveau technique et à la gestion d'exploitation. Est-ce que tu peux un peu parler du sujet de la formation justement pour devenir éleveur ou éleveuse bovin?
Oui, alors en effet, la formation, c'est quelque chose de non négligeable. J'encourage même ceux qui ont déjà en fait un parcours scolaire ou professionnel agricole de refaire ou compléter en tout cas sa formation, puisqu'en fait, le métier d'éleveur, il est à la fois technique sur le terrain, mais aussi de gestion, et très souvent, les aspects comptables, ils sont négligés. Donc, la formation, il y a vraiment plusieurs solutions qui sont possibles, sachant qu'il y a un diplôme minimal de formation agricole qui est nécessaire pour bénéficier de la majeure aide qui existe aujourd'hui pour l'installation, à savoir la dotation jeune agriculteur, ce qu'on appellera la DJA dans le jargon. Et donc, le BPREA, typiquement, peut être une bonne solution. Il y a différentes formes de BPREA. Il y a de la formation continue, il y a en alternance. Donc, ça peut permettre aussi de complémenter ses revenus, de faire des formations plus ou moins longues. Et ça permet vraiment de se remettre la technique en tête, de reacquérir de l'expérience sur des fermes sur lesquelles on n'aurait pas l'occasion d'aller travailler, et puis surtout d'avoir des notions comptables, financières et stratégiques qui sont bien ancrées et fondamentales pour réussir son exploitation.
D'accord, ouais.
Formation, plein, plein de centres de formation existent.
Ok, super. Des ressources vous sont partagées dans la discussion en parallèle de nos échanges, hein, donc n'hésitez pas à consulter les différents liens qui vous sont proposés. Moi, j'avais une question, du coup, combien de temps tu penses il faut avoir travaillé finalement dans une ferme bah, d'élevage bovin lait ou d'élevage bovin viande pour pouvoir se dire, bon, c'est bon, ça y est, je maîtrise à peu près. Les compétences qui me sont nécessaires pour me lancer dans ma propre exploitation. Parce que parfois, quand on fait une reconversion et qu'on démarre de zéro, on a du mal à se dire à partir de quand je pourrais être prêt. Et je pense qu'on peut se dire que c'est pas parce qu'on fait une reconversion, par exemple, qu'on peut pas être éleveur ou éleveuse. Mais du coup, quels sont un peu les qu'est-ce qu'il faut s'assurer d'avoir vu et d'être capable de faire avant de vraiment se lancer dans le grand bain?
Je dirais que si on parle de quelqu'un qui a zéro expérience agricole, même si c'est quelqu'un qui a fait quelques remplacements ou soutiens familiaux le week-end, pour moi, je parle de quelqu'un qui a zéro expérience, hein. Pour en tout cas s'installer, je dirais qu'il faut à minima un an sur une ferme pour avoir un bagage de base pour se lancer. Et enfin, dans cette année-là, en fait, c'est vraiment de se dire, il faut qu'on puisse vivre toutes les étapes essentielles d'une ferme. Donc, à savoir, une période de vélage, l'élevage de veaux, une récolte, des semis. En fait, vraiment toutes les étapes clés dans la vie d'une ferme sur une année, on va dire, civile. Et de préférence, alors je dirais dans des fermes qui sont avec des modèles différents, c'est pas forcément toujours judicieux d'aller faire un an de salariat, de bénévolat, peu importe, dans une ferme qui est très proche du modèle qu'on voudrait mettre en place, mais vraiment essayer de se dire, bah, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire 2 mois, par exemple l'été en estive, pour voir si, bah, comment est-ce que finalement un modèle complètement différent gère l'élevage? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des bonnes choses à prendre chez eux si moi je veux être sur un modèle plus de plaine? Donc, je dirais un an minimum avec des expériences dans des fermes variées et vraiment sur une année civile complète, en fait, pour toutes les étapes de la ferme.
Okay. Bah, ça tombe bien parce que ça correspond un peu aux critères aussi qu'on applique chez Ferme en Vie quand on regarde le financement d'installation. Donc, ça me rassure. On fait pas n'importe quoi. Donc là, finalement, on en est à l'étape où, bah, la personne potentiellement est formée et prête à s'installer. Va découler une réflexion sur, bah, le projet en lui-même. Comment on fait pour dimensionner son projet en bovin? Comment on fait pour choisir sa race de vache, son mode de conduite, son système? Enfin, voilà, quels sont tes conseils? Évidemment, on ne va pas pouvoir entrer dans tous les cas particuliers, mais est-ce que tu peux donner des premiers éclairages?
Oui, alors je voudrais juste rajouter une chose qui m'est venue en tête, c'est que dans plein d'expérimentations qui sont reprises, où il y a aussi les stages de parrainage qui peuvent prolonger la période d'expérience a posteriori d'une formation. Je voulais rajouter ça et je vous enfin, j'incite les porteurs de projet à prendre cette formule de stage de parrainage qui avant l'installation, qui est quand même précieux pour capitaliser l'expérience de l'exploitant en place. Je ferme la parenthèse et je rouvre l'autre sur le dimensionnement du projet. Je dirais que la première étape, quand on est dans le cadre d'un modèle d'élevage, c'est de déterminer son schéma de troupeau en cohérence avec l'assolement, le sol qui est proposé dans la ferme. Alors, vous allez me dire, celui qui a un projet de création et qui ne sait pas du tout où est-ce que sera implantée sa ferme, c'est compliqué de faire un schéma de troupeau. Donc, je vais, par souci de simplicité, prendre le cas d'une ferme qui serait reprise, puisqu'en fait, il y a déjà un assolement des surfaces et éventuellement un troupeau en place. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment d'établir son schéma troupeau. Donc, un schéma troupeau, c'est vraiment le nombre d'animaux qui vont être présents, le nombre d'animaux qui vont mettre bas, le nombre de veaux qui vont être vivants, et en fait, le taux de renouvellement qui est nécessaire pour réalimenter son troupeau, comptant les réformes et les morts qui peuvent sortir de cette vie de troupeau. Une fois qu'on a établi ce schéma troupeau-là, en fait, on a une idée de combien de vaches laitières ou allaitantes hein, vont être nourries, combien il y a de génisses, combien il y a de veaux, quel va être l'âge ovelage. C'est un peu les grandes lignes qu'on va déterminer sur le troupeau. Deuxième étape, ça va être de se dire sur un an, donc vraiment janvier à décembre ou juillet à juin, quelles vont être les rations, les plans d'alimentation qu'on peut estimer sur un an pour voir si la consommation à la fois de fourrage et de concentré peuvent être couverts par les surfaces qui sont proposées, en tout cas à disposition sur la ferme, au vu des rendements qui sont réalisés. Et donc, en fait, ça nous permet de mettre en cohérence à la fois le schéma troupeau et les surfaces récoltées probablement pour voir si est-ce qu'il faut qu'on baisse le nombre d'animaux ou leur productivité ou éventuellement les augmenter. Les surfaces, est-ce qu'il faut que j'en cherche davantage? Est-ce que j'en ai trop? Est-ce qu'il faut que j'augmente mes rendements? Donc ça permet déjà de se donner un peu des pistes sur cette adéquation sol-troupeau. Et ensuite, les étapes suivantes, ça reste comme tous les business plans de n'importe quelle entreprise, de chiffrer ses produits, donc son chiffre d'affaires. Ses charges, toutes ses dépenses, donc, en séparant bien, du coup, les charges dites opérationnelles qui sont liées, on va dire, au fonctionnement du troupeau et des surfaces, des charges de structure qui sont plutôt fixes, donc liées au bâtiment, au matériel, etc. Et donc, ça va donner, on va dire, un premier regard sur les résultats, et je mets le mot très vulgarisé de résultats, hein, de la ferme, donc à savoir le BE. Avant là de rentrer dans des considérations plutôt financières, quels seraient les financements, le plan de financement que je pourrais faire, donc quelles sont les annuités, les emprunts que je peux faire. Donc ça vient vraiment en dernière étape.
Ok, d'accord. On a Antoine qui nous pose une question. Est-ce qu'il y a des outils spécifiques pour faire ce schéma troupeau qui sont accessibles pour les porteurs de projets?
Alors, il n'y a pas d'outil informatique, en tout cas à ma connaissance, dans lequel on peut saisir un schéma troupeau. Après, c'est des choses qui sont très faciles à faire. Et vous avez notamment un article en ligne sur le site internet, pardon, conseilenagriculture.fr. Dedans, alors je ne sais plus exactement le nom de l'article, je vous le retrouve, j'en ai pour un instant, qui vous permet en fait de suivre les étapes pour construire un schéma troupeau. Je crois que c'est dans un article qui permet de faire son système fourrager. À la
D'accord.
rigueur, je vous le mettrai en lien, si vous voulez. Ce
Ouais,
sera plus simple.
je pense que c'est une bonne idée, effectivement. Je vois qu'il y a d'autres questions, hein. J'oublie pas vos questions, mais comme elles sont pas directement liées à ce qu'on dit maintenant, on les posera un peu plus tard. Et du coup, donc là, tu as présenté le cas de la personne qui a déjà identifié une ferme pour une reprise. Est-ce que tu peux quand même donner quelques éléments sur, bon, bah, moi, je sais que je veux que je veux être éleveuse bovin. J'ai une petite idée de la, en fait, de la taille de troupeau et du type de système que je veux mettre en place. Comment je fais pour orienter en fait derrière ma recherche de foncier par rapport à ce que j'ai envie de faire? Comment je calcule par exemple la taille de la ferme? Est-ce qu'il y a des caractéristiques spécifiques que je dois regarder quand je cherche une ferme pour m'installer, etc. Est-ce que tu pourrais éventuellement voilà, nous donner quelques éléments là-dessus, même s'il y a beaucoup de cas particuliers?
Ouais. Alors c'est vrai que la situation de la création, elle est, enfin de partir de zéro, c'est compliqué. Pour moi déjà, le prérequis, c'est de se dire combien de nombre de mères laitières ou allaitantes je ne veux pas dépasser au regard du temps de travail que ça va me générer. Alors ça dépend aussi si c'est une installation en individuel ou en société, mais c'est déjà une bonne base pour se limiter sur une recherche de ferme qui pourrait avoir des surfaces bien trop élevées ou un trop gros troupeau par rapport à ses volontés. Après,
Est-ce
c'est
que tu
difficile
aurais
de...
un, pardon.
Non,
Est-ce que
vas-y.
tu aurais un ordre de grandeur de temps de travail, enfin, par exemple pour une personne, combien, enfin, un troupeau de combien de mères est légitime? À partir de quel moment c'est trop? Enfin, selon laitier ou allaitant, j'imagine que c'est différent, mais à partir de combien c'est trop et à quel il faut mettre des points de vigilance sur le fait de s'installer seul sur une taille de troupeau trop élevée? Est-ce que tu as des éléments là-dessus?
Alors, du coup, je vais parler que pour les fermes en circuit long, donc en vente en laiterie pour les vaches laitières, parce que sur des circuits courts, ça dépend évidemment du nombre de marchés, de la quantité à transformer. Donc, pour le coup, ce serait vraiment trop aléatoire comme réponse. Et j'ai des mille exemples qui montrent que j'ai des troupeaux à 6 vaches qui fonctionnent très bien en circuit court et des troupeaux à 25 vaches qui n'en vivent pas. Donc, en fait, il n'y a pas de réponse pour les circuits courts. En revanche, pour les circuits longs sur des installations en individuel, plutôt sur des systèmes de type herbager, on est plutôt sur, on va dire, 55 vaches laitières traites en moyenne. Donc, c'est sans compter, évidemment, tout le renouvellement sur les génisses derrière. En bovin laitant, on est un petit peu plus élevé. On peut monter allez, à 60-65 vaches allaitantes mères. Donc, c'est pareil, encore à ça, il faut ajouter, évidemment, les suites, hein, donc les broutards éventuellement, les veaux, etc. Donc je dirais que une installation seule en circuit long, en lait, on est à 55 vaches laitières traites en moyenne et en vaches allaitantes plutôt ouais, 60-70, quoi. Encore une fois, il y a le modèle de la race qui va faire varier les choses sur la facilité de vélage, est-ce qu'il y a besoin vraiment de main-d'œuvre? Donc voilà, en allaitant, il y a aussi d'autres paramètres qui peuvent rentrer en compte. Bonjour
D'accord,
Eva.
ok. Désolée, j'ai une question. Quand tu dis 55 vaches laitières mères traites pour une installation seule, c'est il y a vraiment un ETP seul sur la ferme ou est-ce qu'il peut faire appel à du service de remplacement dans le modèle que toi t'as en
Alors,
tête?
c'est une bonne question. En effet, quand je parle de une personne, en fait, c'est, je devrais dire un temps plein. Donc, en fait, le temps plein, il n'est pas lié à une personne ou 0,8 personnes et son remplaçant ou son salarié. Donc, en fait, c'est vraiment 55 vaches pour une unité temps plein. Donc, ça comprendrait en fait une personne qui est tout le temps là et qui a un service de remplacement si jamais il veut, j'en sais rien, s'absenter un week-end par mois ou 3 semaines à l'année. Enfin, ça dépend.
Et ça, peu importe le système de conduite de troupeau, que ce soit 100% herbagé, sans bâtiment ou hors sol ou.
Non, justement, c'est ce que je disais, c'est 55 vaches laitières traites. C'est vraiment sur un modèle de système plutôt typé herbager
OK.
et sur du vélage étalé. Parce qu'on serait en vélage groupé, évidemment, ça change aussi la donne.
Merci, merci pour la question, Astrid. Du coup, je t'avais coupé sur ce que tu racontais sur bah voilà qu'est-ce qu'on regarde quand on cherche du foncier. Donc là, on a parlé de la taille de son troupeau. Une fois qu'on a ça, comment on fait la conversion vers quelle ferme on recherche et quelles sont les caractéristiques qu'il faut qu'on regarde quand on recherche du foncier?
Oui, alors sur la recherche de foncier, il y a aussi la nature des sols. Je dirais qu'il y a deux paramètres. Il y a la nature des sols et est-ce qu'on est sur une reprise de ferme ou une recherche de foncier qui est plutôt de type prairie et est-ce qu'on est sur des prairies naturelles, des prairies qui sont plutôt productives ou est-ce qu'en fait on cherche un potentiel de culture parce que dans le modèle d'élevage qu'on a en tête, on veut faire de la culture, que ce soit de la culture d'herbe ou de céréales, ou peu importe le type de culture, ça peut être aussi une double activité, par exemple du maraîchage ou paysan boulanger, je ne sais pas, hein, il y a mille exemples. Donc ça, c'est là vraiment la nature des sols, c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher. Donc en fait, on peut avoir déjà des idées sur les rendements qui ont été auparavant réalisés, les types d'espèces qui sont en place et en fait, bah, la biodiversité présente, est-ce que elle est à l'image de ce que le modèle d'élevage qu'on veut mettre en place peut correspondre. Donc ça, je dirais que c'est une première chose sur laquelle on peut s'intéresser. La deuxième chose aussi qui va influencer beaucoup, c'est, alors surtout si on est en circuit court, c'est l'implantation géographique et en fait bah, tous les liens commerciaux, sociaux qui vont être autour. Est-ce qu'il y a déjà des exploitants installés dans le coin qui bah, sont présents sur les marchés? Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont à regarder. Parce que vraiment, en circuit court, c'est pas si simple de développer la vente directe. On a beau dire que les gens ils cherchent à avoir des produits de qualité locaux, c'est vraiment pas si évident de trouver sa place quand on est en création ou en reprise. Donc, bien être vigilant sur le tissu social en fait qui est autour, aussi de par l'entraide. Hein. Il y a des secteurs géographiques dans lesquels les éleveurs s'entraident pas du tout, et d'autres ça matche hyper bien. Donc, je pense que c'est quelque chose aussi auquel il faut être vigilant, peut-être aller voir les CUMA, les ETA pour voir si, voilà, est-ce qu'il y a une vraie entente entre les gens du secteur, quoi. Et si une autre chose auquel je pense, notamment pour les systèmes qui sont plutôt de type pâturant, c'est l'accessibilité du foncier. Est-ce qu'on est sur, on pourrait très bien avoir une ferme, je cherche 100 hectares, je n'importe quoi, et en fait, il y a un îlot de 50 avec le siège social, et puis un autre îlot 50 hectares plus loin, et en fait, il n'y a pas de bâtiment, comment je vais les utiliser, sachant que je veux faire que du pâturage? Typiquement, ce n'est pas forcément une ferme à première vue qui serait adaptée.
Ouais, le sujet du parcellaire est très important et en plus en fonction de est-ce qu'on est sur un troupeau allaitant ou un troupeau laitier, on va aussi pas rechercher le même, enfin on va pas avoir les mêmes exigences en termes de groupement des parcelles puisqu'on si on doit rentrer le troupeau quotidiennement, évidemment on va pas rechercher la même structure de la structure d'exploitation. Ok, bah merci pour ces éléments sur la recherche de foncier. Donc quand on prévoit de s'installer, forcément il y a éventuellement un investissement sur le foncier, ou alors on peut s'installer en location ou même en location avec option d'achat avec FEV, hein, si c'est quelque chose qui nous convient. Mais donc il y a d'autres investissements qui sont aussi à prévoir pour s'installer. Donc de quoi a-t-on besoin quand on prévoit son installation? Qu'est-ce qu'il faut pas oublier? Qu'est-ce qu'il faut chiffrer? Et quelles sont les aides aussi potentiellement accessibles pour les porteurs de projets qui veulent s'installer en bovin?
Alors sur les investissements, c'est pareil. Il y a mille exemples possibles. Donc je vais parler de la moyenne. Donc quand on parle d'une installation en reprise d'exploitation, il y a des dernières études qui ont montré qu'en fait le capital à investir, il était de l'ordre de 1070 euros pour 1000 litres produits en vache laitière. Je n'ai pas l'équivalent en vache allaitante. Et ça représente près de 22 500 euros d'actifs par unité de temps plein. Donc ça peut dessiner un peu les grandes lignes. Si on intègre une société, en fait, généralement, on n'a pas des investissements qui sont faramineux, puisqu'en fait, on investit des parts sociales dans le GAEC ou enfin, dans la société en question. Et en fait, après, c'est le GAEC qui a la charge d'investir pour la ferme. Donc, très souvent, quand un porteur de projet intègre un GAEC, finalement, sa charge personnelle d'emprunt, elle est pas forcément aussi, enfin, elle n'est pas aussi élevée que si il crée une entreprise individuelle pour lequel, là, en fait, il s'investit personnellement pour clairement mettre ses billes dedans, quoi. Donc là, il y a vraiment la différence de création d'installation en société et en individuel. Il ne faut pas du tout négliger le renouvellement du matériel qui est dans la majorité des cas extrêmement diminué. Je vous apprends pas que maintenant, comment dire, réparer une machine, ça coûte plus cher qu'auparavant. On peut facilement mettre 20-30% de plus. Donc vraiment, le renouvellement du matériel, qu'on soit en reprise ou en création, c'est nécessaire d'en mettre à année plus 3 et année plus 4 à minima. Sinon, si on peut un peu donner on va dire, des grandes lignes de ratios financiers, J'insiste toujours sur le fait que les banques, elles disent oui, il faut au moins 10% de marge de sécurité dans l'élaboration d'un business plan. Non, en fait, il en faut carrément plus, hein. Franchement, il faut plutôt frôler le 15-20% de marge de sécurité pour qu'une banque aujourd'hui suive un porteur de projet, avec des annuités qui doivent normalement pas dépasser 20% du produit brut. Alors, le taux d'annuité sur le chiffre d'affaires, il peut monter plus haut pour des jeunes porteurs de projets. Mais encore une fois, ça va dépendre de quels engagements vous prenez. Est-ce que vous mettez une hypothèque? Quel capital vous investissez? Donc, c'est très variable. Et puis, il ne faut pas hésiter à mettre en concurrence les banques, hein, puisqu'en fait, elles n'ont pas toutes les mêmes conditions. Et une dernière chose à ne pas négliger dans les investissements, mais c'est pas tellement un investissement en soi, mais c'est quelque chose en tout cas à chiffrer absolument, c'est le besoin en trésorerie. Très souvent, les éleveurs, ils ont en tête dans leur business plan de dire ah, voilà, j'ai besoin d'acheter une salle de traite, renouveler mon bâtiment, acheter un nouveau tracteur, bon très bien. Puis en fait, le besoin en trésorerie, il doit être nécessairement inclus dès l'ouverture de la ferme. Et donc là, il faut le considérer comme essentiel, comme un prêt finalement, une ligne de prêt qu'on rajouterait, alors admettons, 10 000 euros de besoin en trésorerie de départ. Donc ça, c'est, je dirais, les grandes lignes à garder en tête. Pour ce qui est de la question des aides, donc il y a la dotation jeune agriculteur qui est majoritairement connue pour les porteurs de projets. Donc il y a des conditions évidemment de diplôme, d'âge, de résultats de financiers de l'exercice. Vous trouverez énormément d'informations sur la DGA en ligne, même sur, j'imagine, les ressources de FEV. Enfin ça, vous trouverez vraiment pas de trouverez pas de difficulté avec ça. Il y a certaines régions et départements qui proposent des aides supplémentaires sur certains porteurs de projets dans certaines productions. Donc là, c'est pareil. Rapprochez-vous des conseils régionaux, des chambres d'agriculture aussi qui sont renseignées là-dessus, éventuellement d'autres organisations qui font des soutiens à l'installation parce que ça dépend des régions. Et puis après, il y a tout ce qui va être lié aux investissements. Alors là, on ne parle pas d'aide à l'installation, mais c'est vraiment plutôt du soutien à l'investissement. Donc, vous avez dû entendre parler des PCAEF. Donc ça, c'est plutôt de l'aide à l'investissement, plutôt en cours enfin, pas d'installation, mais de croisière, en fait, une fois que la ferme est lancée, qui permet de financer du matériel, des rénovations de bâtiments, ce genre de choses. Et puis je tenais à préciser quand même que quand on parle d'aide, volontairement, je ne parle pas de la PAC, puisqu'en fait la PAC n'est pas une aide. La PAC, c'est vraiment un produit d'aide au soutien des surfaces agricoles et c'est pas ni l'investissement ni une aide à l'installation. C'est vraiment chaque ferme aujourd'hui qui a une surface agricole qui permet un soutien par l'État à travers la PAC.
Ok, merci. Je vois que l'heure tourne. Donc, pour qu'on puisse avoir du temps pour les questions-réponses, moi, j'aimerais bien te poser une question plus spécifique, peut-être, voilà, on va dire au scope de FEV qui t'intéresse à l'installation sur des fermes agroécologiques principalement. Est-ce que tu pourrais nous parler, voilà, de pratiques agroécologiques en bovin ou d'exemples de fermes que tu as vues? Qui ont des pratiques qui permettent, voilà, d'avoir des fermes avec un meilleur impact environnemental et social et des systèmes qui soient agronomiquement agroécologiques.
Ouais. Déjà, je tiens à préciser que les pratiques agroécologiques, elles ne sont pas réservées qu'au système herbager. C'est un gros prérequis à mes yeux, puisqu'en fait, on a tendance à taper fort sur les éleveurs qui font du maïs, mais il faut savoir que sans eux, la production, elle serait quand même bien mise en péril. Et que ce sont les premiers à se remettre en question sur la diminution de la part de maïs, et évidemment la diminution des importations de soja notamment. Donc voilà, et c'est chez eux que j'ai vu les meilleures pratiques et les meilleure remise en question agroécologique. Donc, si je peux citer quelques exemples, on est notamment sur la mise en œuvre de nouvelles variétés herbagères dans les mélanges prairiaux. On n'est plus sur des éleveurs qui vont semer des mélanges régrand anglais trèfle, mais on va être sur des éleveurs qui vont intégrer des nouvelles variétés, qui vont faire des couverts végétaux, qui vont aller se pâturer. Donc, ça peut être du colza fourragé, ça peut être des betteraves qui peuvent se pâturer. On a aussi des pratiques qui sont beaucoup liées à la sécheresse, donc notamment pour faire en sorte que les animaux continuent de bénéficier d'herbes, alors pas forcément sous la forme de pâturage pendant l'été, pendant la sécheresse. Donc, il y a des techniques comme le bale grazing qui, en fait, consiste à mettre une botte de foin au pâturage et de la dérouler, en fait. Ça permet aux animaux de ne pas se brûler sur les râteliers quand la balle elle est mise dans un râtelier en ferraille, en plein cagnard, avec des barreaux qui brûlent les animaux. Donc voilà, le bale grazing, il permet à la fois d'accéder à la nourriture sans se brûler et puis de réensemencer finalement le sol, enrichir en matière organique, etc. Et puis tout ça, c'est sans compter sur les pratiques agroécologiques, évidemment, d'agroforesterie, de haies, de diminution de produits phytosanitaires. J'en ai de moins en moins hein, qui utilisent ce produit phytosanitaire-là, notamment parce que de plus en plus s'orientent vers des pratiques de type HVE3, donc la haute valeur environnementale de niveau 3, qui est un premier, on va dire, tremplin pour des éleveurs qui se poseraient des questions, un peu de remise en question. C'est vraiment la base. Et puis, les éleveurs qui sont en circuit court, ils sont déjà aussi à se questionner sur finalement comment est-ce que je peux faire en sorte que mon patrimoine gustatif dans mes produits il soit vraiment propre à ma ferme. Et donc, en fait, tout ça, c'est lié, encore une fois, à ce que les animaux mangent majoritairement, le choix de la race. De plus en plus font choix hein, de races menacées, donc type Bretonne pinoire, etc. Le croisement trois voies existe aussi sur certaines vaches plus productives qui fonctionnent bien pour plus de rusticité. Donc il y a en fait mille astuces, mais c'est encore une fois des pratiques qui sont courantes et vues chez je sais pas, 80% des éleveurs, quoi.
Okay. Et parmi ceux que tu accompagnes, est-ce qu'il y en a qui sont du coup dans une démarche voilà de tu accompagnes aussi des gens qui font des conversions, des transitions vers de nouveaux systèmes qui sont potentiellement déjà installés, mais qui vont essayer de revoir leur système pour plus de voilà plus de pratiques agroécologiques et potentiellement des conversions aussi en agriculture biologique pour aller peut-être un peu plus loin que HVE3. Est-ce que ça, c'est des choses que tu vois?
Alors, j'accompagne pas d'éleveurs qui font enfin, qui passent de conventionnel à l'agriculture bio, typiquement. Là, j'en ai pas du tout. La filière n'y incite pas du tout, malheureusement. Pour autant, tous les éleveurs ont comme ambition d'être autonomes en alimentation. Donc, les premiers grands changements, ils résident dans la réduction de la part de maïs en silage dans les rations et dans l'assolement nécessairement. Donc, les premières steps, c'est faire du maïs épi plutôt que du maïs en silage, qui permet de réduire drastiquement la part de maïs en silé, enfin, de maïs dans l'assolement. Donc ça, c'est vraiment de plus en plus d'éleveurs, hein. Ceux qui se font de la ration hivernale à base de maïs, en fait, ils se basent maintenant sur du maïs épi et donc plus d'herbes, plus de différentes façons de récolter l'herbe. Donc, l'affouragement vert marche de plus en plus. Le métagrain, pour certains, ça fonctionne. Dès lors qu'on passe les 20 kilos de lait, en vrai, même 18, hein, par vache, clairement, le métagrain, on ne peut pas dire que ça fonctionne sur des vaches, hein, et ça donne beaucoup trop de risques d'acidose sur une ingestion de céréales trop élevée. Donc, en fait, il faut forcément y pallier avec un autre apport d'azote qui peut être de la luzerne faite chez soi, hein. Donc, je dirais que voilà, les premières étapes, ça va être la réduction du maïs. Et puis après, il y a toute cette efficacité de l'herbe. On ne dira jamais assez que la culture de l'herbe, c'est la culture la plus difficile qui soit pour un éleveur. L'herbe, il y a mille valeurs, il y a mille façons de la récolter, et du coup, il y a plein de pratiques qui sont différentes pour y arriver.
Ok, bah merci beaucoup. Je trouve que tu portes des éclairages très ouverts sur plein de systèmes et de pratiques différentes. Donc j'espère que ça intéresse nos auditeurs et auditrices. Je propose de poser les quelques questions qui ont été mises dans le chat. Il y avait une question de Anne et Thomas qui parlait des systèmes en vêlage groupé de printemps. Ils voulaient savoir, donc bonjour Eva, travailles-tu avec des systèmes en vêlage groupé de printemps? Que conseilles-tu pour la transition d'un système conventionnel avec vêlage étalé à un système vêlage groupé de printemps et quel est ton retour sur l'efficacité technico-économique de ces systèmes? Tu as arrêté ton micro, Eva.
Bien vu. Je disais, j'ai accompagné deux élevages cette année dans cette transition-là, dont un est en train de finir son année là, de transition. Je dirais que le majeur conseil, c'est de d'avoir énormément de trésorerie pour accuser le coup pendant 9-10 mois. Ça, c'est quand même le gros conseil. Le deuxième, c'est de sélectionner en fait ces vaches en amont de la transition, donc d'un point de vue génétique en fait, hein, de se dire bah, s'il y a des vaches clairement qui sont pas adaptées à faire du vêlage de printemps, qui vont pas répondre correctement à l'herbe. En tout cas, il y a des vaches vraiment génétiquement, elles sont pas adaptées pour ça. Elles vont faire énormément de litrage et pas de taux, donc en fait, elles vont pas être au top. Et je dirais que l'efficacité technico-économique de ces systèmes, elle est avérée, et notamment sur des zones géographiques où l'herbe, je veux dire, dure au moins 4 mois de manière efficace, et particulièrement sur des systèmes en circuit court, sur ces éleveurs-là, quand ils ferment la salle de traite 2 mois dans l'année, c'est pas un problème du tout, quoi. Donc ça, j'y encourage. Et je dirais pour ceux qui hésitent, il y a aussi la solution de faire de la monotraite partiellement dans l'année, qui peut, alors ça répond pas exactement au modèle de vêlage groupé de printemps, mais la monotraite sur par exemple l'été, ça peut être déjà un peu un prémisse à un changement de système de type vêlage groupé, vêlage étalé vers vêlage groupé.
D'accord, ok, merci. J'espère que ça répond à votre question, Anne et Thomas. Sinon, n'hésitez pas à intervenir ou à approfondir votre question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans les auditeurs et auditrices? Vous pouvez prendre la parole directement ou écrire dans le chat. Sinon, je vois qu'Antoine avait une question plus spécifique à Fève, à laquelle moi je peux répondre rapidement, qui demandait est-ce que Fève aide pour le financement des investissements sur la ferme? Alors nous, chez Fève, on va avec la foncière solidaire, on va pouvoir investir donc dans l'achat des bâtiments et du foncier agricole. Si sur ces bâtiments dont on va devenir propriétaire, il y a des travaux de grosses œuvres à faire, on peut financer ces investissements-là, si ça correspond au projet. Par contre, tout ce qui est aménagement des bâtiments, par exemple, je sais pas moi, pour une salle de traite, achat de matériel, achat de cheptel, nous, on ne va pas financer cette partie-là et ça va être à la charge du porteur de projet qui pourra se financer bah, soit par un emprunt bancaire, soit en étant mis en lien. Nous, on fait de la mise en relation aussi avec des partenaires de financement participatif, comme par exemple Bluebees ou Mimosa, qui font voilà des campagnes de financement participatif pour financer tout ce qui est matériel et cheptel. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête comme option de financement. Si jamais dans le public, il n'y a pas d'autres questions, moi, j'ai encore une ou deux questions que je peux te poser et qui, je pense, peuvent aussi intéresser les personnes qui nous écoutent. Peut-être des questions sur l'état de la filière bovin aujourd'hui. On entend beaucoup de choses sur le bovin lait, sur enfin sur tout comment se porte la filière, les difficultés des éleveurs et des éleveuses. Est-ce que toi tu pourrais nous faire un petit état des lieux selon ta connaissance de la filière et puis des choses aussi à privilégier dans des situations potentiellement de conjoncture difficile sur ces filières-là?
Je vais parler de ma petite fenêtre. Je n'ai pas la prétention de connaître toute la filière agricole. Par contre, j'ai tendance à dire qu'on peint toujours un tableau noir de l'agriculture, et c'est pas du tout ce que je vois sur le terrain. Donc, je suis très consciente des difficultés de certains pour avoir accompagner des agriculteurs en difficulté pendant des années, mais je préfère parler de ceux qui réussissent et qui sont passés de je galère à je réussis. Parce que à mes yeux, c'est ça qui est intéressant. En effet, quand on vend en circuit long, en laiterie ou en abattoir, on maîtrise pas les prix. Par contre, on maîtrise tout le reste. On maîtrise ses produits, on maîtrise ses charges, on maîtrise son temps de travail, on maîtrise son confort de travail, et je pense que c'est sur ça qu'il y a à gagner, plutôt que d'aller toujours se combattre pour un prix qui n'est pas suffisant. Moi aussi, j'aurais aimé me battre contre mon patron parce que je n'étais pas payée assez cher. Bah, j'ai pris mes clics et mes claques et je suis partie. Et en fait, il y a des éleveurs qui, à mes yeux, perdent trop d'énergie à se dire que le prix du lait et le prix de la viande n'est pas assez haut. Et qui finalement auraient pu passer du temps à faire mieux chez eux. Pour en tout cas une rentabilité et un confort de travail, encore une fois. Je pense qu'il y a une opportunité sur le prix de la viande, alors que ce soit en lait ou en viande, enfin bovin laitant, hein. Aujourd'hui, un veau laitier, il est quand même bien mieux valorisé qu'auparavant. Je ne parle pas des vaches allaitantes qui aujourd'hui, selon les demandes des abattoirs, il y a des prix qui peuvent vraiment beaucoup varier, parfois à plus de 50% sur les prix au kilo. Donc, il faut bien connaître en fait, ces débouchés, hein, pour savoir auprès de qui négocier. Concrètement, aujourd'hui, sur des laiteries, c'est très difficile de négocier des contrats. Par contre, de quitter une laiterie pour rentrer dans une autre laiterie avec des plus-values, de cahier des charges, là, il y a un vrai intérêt. Il y a des zones AOP, et même en Vendée, j'insiste, parce que parfois on entend savoir que c'est que dans les montagnes, mais en fait, ça se développe de plus en plus, hein. Et donc, il y a vraiment des plus-values à aller chercher. Pour les abattoirs, j'encourage les gens, pardon, à négocier sur les prix de la viande en interpellant en fait les abattoirs, quel type de viande ils recherchent. C'est bien connu que Charal, ils n'achètent plus des grosses bêtes, quoi. Ils achètent des petites vaches parce qu'ils veulent faire du steak haché, et donc ça les intéresse pas du tout d'avoir des conformations qui sont grosses. Donc vraiment, il faut avoir une vraie connaissance de ces débouchés, il faut interpeller ces marchands de bêtes, il faut interpeller ces laiteries pour voir ce qu'ils attendent et voir si ça matche avec ces objectifs. Encore une fois, on en revient à ça. Et si c'est pas le cas, bah, modifier ces débouchés, éventuellement son système de production. Je tiens quand même à dire, parce que souvent quand j'ai tendance à être un petit peu trop optimiste en disant on occulte trop les gens qui réussissent en élevage, que la moindre difficulté technique, économique ou sociale, il ne faut jamais tarder à contacter n'importe quel organisme. Et le premier reste Solidarité Paysan, même si on croit commencer à être dans la difficulté, mais qu'on n'y est pas encore bien, il est jamais trop tôt pour se poser la question si ça va être la merde incessamment sous peu. Donc ça, vraiment, j'insiste, il faut parler autour de soi, même si on n'est pas dans la difficulté soi-même, si on sent qu'un autre agriculteur l'est potentiellement, bah voilà, de dire, est-ce que tu as pensé à appeler Solidarité Paysan? Ça reste quand même aujourd'hui l'organisme qui accompagne très bien d'un point de vue social les agriculteurs en difficulté.
Ok,
J'ai une
merci.
question.
Eva, pardon. Est-ce que tu parlais de modèle tout à l'heure? Est-ce que tu encourages les nouveaux installés à internaliser la transformation du lait via une fromagerie, du fromage d'autres produits dérivés, ou est-ce que c'est un autre boulet au pied? Est-ce que ça se pour mieux valoriser sa production, quoi?
Ouais, alors en effet, hein, financièrement, économiquement, il y a un vrai intérêt à transformer chez soi. Très souvent, le frein, il est sur le modèle travail. En fait, malheureusement, des néo-ruraux que j'ai rencontrés et que j'accompagne, en effet, il y a cette vraie volonté de retourner à la terre, mais il n'y a pas non plus cette volonté de faire 60 heures semaine. Et clairement, quand on s'installe seul ou même à deux, c'est limite, hein, et qu'on a à minima un troupeau de 60 vaches classiques, hein, système herbe, etc. Si on transforme, bon, bah, il faut être prêt à bosser. Parce que clairement, la transformation, c'est une chose, mais il y a aussi toute la partie commercialisation. Donc en fait, je dirais pas que c'est un boulet au pied, mais que ça peut le devenir si le modèle travail derrière, il n'est pas suffisant pour le supporter.
Ok, merci.
Super. Je vois qu'il y a une dernière question dans la discussion et qu'il est déjà 13h28, donc on va prendre cette question et après on pourra sans doute conclure pour éviter de mobiliser tout le monde trop longtemps. Évidemment, si vous voulez poser vos questions à Eva plus tard, je pense qu'elle se fera un plaisir de pouvoir y répondre. On avait Audrey qui posait une question sur les problématiques de manque d'eau, en disant que dans le sud-ouest, on voit que certains éleveurs réduisent la taille de leur cheptel pour des problématiques de manque d'eau. Est-ce que ce sont également des sujets que vous constatez? Est-ce que c'est un sujet pris en compte au moment de l'installation?
Alors, à ma connaissance, enfin, au moment de l'installation, d'un point de vue officiel, donc dans les parcours à l'installation, ce n'est pas pris en compte. Mes derniers repères remontent à 2000, on est en 2023, donc à 2021, sur les parcours à l'installation dans le Grand Ouest. Par contre, rien n'empêche n'importe quel relecteur de business plan, que ce soit un expert comptable, un banquier ou un conseiller technique, d'avoir justement cette alerte sur la gestion de l'eau. Alors, les maraîchers sont extrêmement conscients de ça, les éleveurs beaucoup moins. Il y a de plus en plus d'études hein, qui alertent là-dessus sur la consommation d'eau en élevage bovin. Voilà, malheureusement, je pense que ce n'est pas un sujet qui est suffisamment traité. Il faut quand même savoir aujourd'hui qu'une fois que les éleveurs sont installés, il y a de plus en plus d'éleveurs qui irriguent des prairies. Donc, on en arrive là aussi, hein, je veux dire, à des pratiques qui ne sont pas connues, qui ne sont pas discutées, et c'est une réalité. Alors, je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, ça répond à certains modèles. Mais je pense qu'en effet, c'est pas suffisamment pris en compte et c'est une question, en tout cas, un sujet épineux qui est souligné et c'est très bien.
Ok, j'espère que ça répond à la question du coup de Audrey. Vu qu'il est 13h30, je propose de conclure ce webinaire. J'ai trouvé en tout cas pour ma part que c'était très intéressant et j'espère que ça a pu répondre aux questionnements des personnes présentes aujourd'hui. Peut-être qu'il reste encore des questions ou que des personnes ont justement dans notre public aussi besoin d'un accompagnement ou en tout cas envie d'explorer cette possibilité-là. Est-ce que toi, Eva, tu pourrais nous dire, voilà, comment ils peuvent te contacter, redire peut-être ton site internet si jamais ils ont envie d'approfondir certains sujets.
Sans problème. Donc, du coup, moi, je suis très active sur LinkedIn pour ceux qui y sont. Mon site internet, c'est evaenelevage.fr, tout simplement. Il y a un contact possible. Mon numéro de téléphone, il est affiché, disponible, aucun problème. Même si un éleveur porteur de projet a une question simple et voilà, il veut m'appeler, aucun problème, je réponds. Si vous êtes dans le Grand Ouest, ce sera aussi un plaisir de venir à votre rencontre. Et puis la dernière nouveauté, c'est que je propose là une offre sur une relecture de business plan agricole qui va sortir dans 2 semaines maintenant. Donc, si vous êtes encore aux prémices de la construction d'un business agricole avec une relecture par un expert vraiment qui va faire la cohérence troupeau, sol et résultat par rapport à vos objectifs, je peux vous mettre le lien dans le chat pour accéder donc à l'offre qui est réservée là au webinaire pour relire et construire votre business plan de manière sérieuse avec le troupeau bien bien construit.
Ok, super. Je pense qu'on a tout ce qu'il nous faut. Eva vient de mettre le lien dans la discussion pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à récupérer tous les différents liens qui vous ont été partagés. Si vous souhaitez aussi continuer à poser des questions ou cette discussion, le Discord, du coup, qui est un forum en fait où les porteurs de projets peuvent échanger entre eux, vous êtes accessible. Le lien a été partagé un peu plus haut dans la discussion. J'espère que ça aura confirmé des vocations, donné des informations concrètes pour l'installation et même pour les transitions de modèles, etc. Évidemment, on n'a pas pu rentrer dans la profondeur de chacun des sujets parce qu'il nous faudrait beaucoup de webinaires pour pouvoir rentrer là-dedans. Mais merci pour ces éclairages. Je propose de souhaiter un bon appétit, une bonne après-midi à tout le monde. Merci Eva, merci à tous les participantes et participants, et on se retrouvera peut-être pour de prochains webinaires, avec Fève sur les voies du terrain.
Avec plaisir et surtout, j'ai hâte de vous voir sur le terrain, avec vos vaches. C'est ça l'essentiel.
Au revoir.